se parler.
Priorité santé, Claire Hédon.
Bonjour à tous. Priorité Santé vous emmène aujourd'hui au Kirghizistan. Cette petite république d'Asie centrale est indépendante depuis la chute de l'URSS en 1991. Au Kirghizistan, comme dans toute l'ex-URSS, la tuberculose constitue un problème de santé publique. C'est dans les prisons que la propagation de la maladie est la plus forte. Le gouvernement, aidé par des organisations internationales, tente de contrôler l'épidémie à l'intérieur des murs des prisons kirghizes. Un reportage réalisé à Bishkek, la capitale du Kirghizistan, par Camille Magnard et Mathilde Gohanek. Le Kirghizistan connaît depuis le milieu des années 90 des taux de tuberculose très élevés. À l'heure actuelle, on dénombre 120 nouveaux cas par an sur 100 000 habitants, ce qui est 15 fois plus élevé que dans les pays occidentaux. Ces chiffres explosent dans le secteur pénitentiaire avec en moyenne 600 nouveaux cas détectés par an sur 16 000 prisonniers dans tout le pays, un taux en fait 40 fois plus élevé que dans le reste du pays. Le système carcéral kirghiz est organisé sur le modèle soviétique en CISO et en colonies. Les CISO sont les centres de détention qui regroupent les détenus en attente de jugement. Il s'agit là d'un modèle carcéral traditionnel, corridors, cellules, portes blindées. Les condamnés purgent ensuite leur peine dans les colonies dispersées dans l'ensemble du pays. Dans cette émission, nous irons donc voir la prise en charge de la tuberculose dans ces colonies, mais aussi dans les CISO. Alexandre Lesage, qui est responsable terrain de la mission MSF sur la tuberculose en prison, nous fait visiter le CISO numéro 1 de Bishkek, le centre de détention préventive.
Ça c'est la TB, donc il y a un corridor qui est réservé pour la tuberculose. Dans le couloir de la tuberculose, il y a à la fois les cellules où vivent les prisonniers atteints de tuberculose, ainsi que les pièces réservées pour le personnel médical. Donc ici, c'est le laboratoire et la pièce où on collecte les crachats. C'est entre 70 et 90 prisonniers qui reçoivent les médicaments antituberculeux. 80 sur une population de 1700, ça fait quand même beaucoup. À comparer les chiffres civils et les chiffres de la prison, c'est énorme la différence. Et sur toute la population des tuberculeux dans le pays, une grande partie provient du système pénitentiaire. Donc ici, c'est le CISO, c'est la prédétention. Normalement, les gens viennent ici le temps de recevoir leur jugement. Et pendant le temps qu'ils sont ici, ils reçoivent le traitement. Ils viennent dans la pièce où ils reçoivent les médicaments. Ils repartent directement dans leur cellule. Avant que MSF travaille ici, il n'y avait pas d'endroit réservé seulement pour les tuberculeux. Tous les tuberculeux étaient dispatchés dans toutes les cellules. Et à ce niveau-là, c'est sûr que la transmission de la maladie est importante. Le fait que ce corridor avec ses 14 cellules ait été créé, ça réduit la transmission de la tuberculose des malades aux non-malades. Mais il y a toujours possibilité de transmission, le fait qu'on n'arrive pas à détecter tous les cas suspects ou les tuberculeux, donc qui vivent toujours dans les cellules et peuvent infecter d'autres personnes.
Les conditions de détention sont particulièrement rudes dans ces CISO avec une importante surpopulation. Les détenus sont souvent 25 dans des cellules de 20 mètres carrés conçues pour 16. Très mauvaise aération, pas de lumière naturelle, hygiène désastreuse, problème de malnutrition. Autant d'éléments propices au développement de maladies infectieuses et particulièrement de la tuberculose. Médecins sans frontières a souhaité commencer son action dans le CISO numéro 1, celui de Bishkek, le plus important avec 1700 détenus. Dominique Lafontaine, chef de la mission MSF au Kirghizistan, nous explique les spécificités de la tuberculose dans les pays de l'ex-Union soviétique.
La tuberculose, bon, c'est une maladie infectieuse, évidemment, mais qui se développe parmi des populations socialement défavorisées. Pourquoi ? D'une part parce que les conditions de nutrition dans ces populations ne sont pas bonnes. Il y a souvent une hygiène qui est déficiente. Cette hygiène déficiente, cette nutrition déficiente se retrouve également dans le système pénitentiaire, évidemment, kirghiz.
Donc les prisons au Kirghizistan sont connues comme étant le foyer principal de propagation de la maladie ?
On peut dire que les prisons ont un effet amplificateur de la tuberculose. Donc, les personnes tuberculeuses qui contaminent d'autres personnes à l'intérieur des prisons étaient tuberculeuses avant de rentrer. Donc la tuberculose vient également du secteur civil, mais c'est la promiscuité dans certains centres qui fait que cette tuberculose se transmet beaucoup plus rapidement dans le milieu carcéral et à un moment donné ou à un autre, évidemment, ressort dans le secteur civil. C'est un cercle permanent avec un facteur amplifiant dans les prisons. La chute de l'Union soviétique a été un facteur également amplificateur du problème. Avant la chute, disons pendant la période soviétique, il y a eu un fort investissement sur le contrôle de la tuberculose. Disons, la tuberculose avait une connotation, disons, sociale. Donc dans un régime socialiste, il n'est pas bon d'avoir une maladie sociale. Donc la tuberculose a été un des objectifs majeurs du système soviétique. Et un effort très important, économiquement très important, a été porté sur la tuberculose, qui, évidemment, à la chute de l'Union soviétique, n'a plus été supportable pour toutes ces républiques ex-soviétiques. Donc le retour à la réalité a été très dur pour tous ces pays et pour ce système.
Les colonies, c'est-à-dire les prisons dans lesquelles les détenus purgent leur peine, sont des sortes de petits villages entourés de murs d'enceinte, mais à l'intérieur desquels les prisonniers sont libres de leur mouvement et de leur organisation sociale. C'est la plupart du temps à leur passage dans le CISO, avant leur arrivée dans les colonies, que les détenus sont une première fois détectés pour la tuberculose, comme l'expliquent des patients.
Mon nom est Youssouf Nashkoziev. Après ma condamnation, comme je suis malade, on m'a envoyé ici pour être traité. Et je crois que c'est pendant que j'étais prisonnier au CISO, le centre de prédétention, que j'ai attrapé la tuberculose.
Je m'appelle Alexandre Georgievitch Dikov. Je suis né en 1966. J'ai été transféré dans ce service pour tuberculeux en janvier 2007. Avant, j'étais déjà traité dans la colonie 31. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont envoyé ici, sans doute parce que mon état est très grave.
Je suis Ivan Viktorovitch Afanasiev. Je suis arrivé ici en février. Ça fait 11 ans que j'ai la tuberculose. J'ai été traité pour ça, mais pas correctement. On me donnait juste des médicaments pour calmer les symptômes, mais pas pour guérir la maladie.
Les détenus, condamnés et porteurs de la tuberculose sont envoyés dans les deux colonies spécialisées dans le traitement de cette maladie. Les colonies 27, celle où travaille le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, et la colonie 31, celle où travaille MSF, Médecins sans frontières. C'est donc dans ces deux colonies que sont concentrés, en théorie, tous les détenus du pays connus comme tuberculeux pour y être traités selon la stratégie de traitement DOTS, un traitement en fait de brève durée, sous surveillance directe. Et c'est la stratégie qui est proposée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, depuis le début des années 90. Nous sommes donc maintenant dans la colonie 27 et je vous propose de rencontrer Maxime Bernikov, médecin du CICR. Il est responsable du projet tuberculose en prison et il nous précise les modalités de traitement.
In medical terms, we have division into two treatment phases.
En termes médicaux, on distingue deux phases dans le traitement de la tuberculose. D'abord, la phase intensive, où les patients sont positifs, c'est-à-dire contagieux. Ensuite, la phase dite de continuation, où les patients ne peuvent plus transmettre la maladie, mais doivent poursuivre le traitement. La colonie elle-même est divisée en deux zones. La première, c'est l'hôpital, à proprement parler. Et la deuxième, c'est la zone où vivent les détenus, dans des bâtiments appelés baraques. Là, les patients reçoivent leur traitement en soins ambulatoires. Le traitement principal, la phase intensive, se fait donc dans l'hôpital, période durant laquelle les patients contagieux sont isolés des autres. Mais dans la phase de continuation, on transfère les malades dans la zone ambulatoire où ils vivent entre eux, dans les baraques, tout en poursuivant leur traitement.
Priorité santé, reportage.
Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la prise en charge de la tuberculose dans les prisons du Kirghizistan. Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, a commencé à s'impliquer dans les prisons kirghizes en janvier 2004 et MSF 2 ans plus tard. Ces deux organisations ont entamé des programmes de réhabilitation des locaux basés sur l'idée de séparation nécessaire des patients durant les différentes phases de la maladie. Avant, tous les malades étaient mélangés sans distinction, ce qui multipliait les risques de contamination pour les non-porteurs de la maladie. Alors, il semble encore trop tôt pour mesurer dans les chiffres les résultats de ces programmes, mais beaucoup reste à faire dans le domaine de l'éducation à la santé. La tuberculose reste une maladie honteuse et les patients ne comprennent pas toujours l'importance de suivre un traitement aussi long et contraignant. Direction maintenant à la colonie 31 avec Alexandre Lesage de MSF. Une infirmière est en train de donner un traitement à un malade à travers une grille et elle en profite pour donner quelques conseils.
Постоянно приходите? А? Не прерываете лечение? Знаете, насколько важно не прерывать лечение? Хорошо? Выпили? Как вы себя чувствуете? Нормально? Если будут появляться какие-то побочные эффекты, именно обращайтесь к доктору. Хорошо?
Est-ce qu'il y a des problèmes avec la prise de médicaments? Certains qui rechignent un peu, non?
Il y en a qui ne sont pas venus depuis plusieurs jours. Il y en a un, ça fait 32 jours qu'il n'est pas venu. Oui, il y en a qui ne veulent pas prendre de traitement. Ouais.
Alors là, par exemple, celui qui n'est pas venu depuis 32 jours, est-ce qu'il a donné des explications?
Il pensait qu'il était guéri, c'est pour ça qu'il n'était pas venu. C'est un manque d'éducation au niveau de la santé. C'est un gros travail à faire à ce niveau-là. On pourrait penser que c'est plus facile que dans le civil. Mais c'est pas obligatoirement plus facile puisque les prisonniers ont d'autres choses à penser avant de penser la tuberculose.
Ils pensent à quoi alors ?
Bah, survivre, à vivre. Quand on est en prison, je pense que là, il y a d'autres préoccupations que la tuberculose.
Et donc, on voit que les prisonniers viennent, donc à travers la grille, prennent leur traitement que leur donne l'infirmière. Et ensuite, ils doivent le prendre devant elle. C'est important de contrôler.
C'est important de s'assurer que les prisonniers avalent effectivement leurs médicaments. C'est un traitement qui est long, qui est relativement difficile à supporter. Et c'est le seul moyen qu'on ait de pouvoir s'assurer que les prisonniers prennent réellement leurs médicaments et qu'ils évitent de les emmener dans les baraques et éventuellement de les utiliser comme monnaie d'échange. Ce qui a déjà été vu.
Donc il faut aussi, j'imagine, dans votre travail, bien contrôler le moment où le crachat est collecté, savoir si la personne respecte bien le processus. C'est aussi une surveillance qu'il faut avoir, comme avec la prise de médicaments.
C'est la même chose, oui. C'est pour éviter toute duperie, toute tromperie, et s'assurer que chaque prisonnier est bien détecté tuberculeux s'il est tuberculeux et n'est pas détecté tuberculeux s'il ne l'est pas. Pour éviter qu'un prisonnier reçoive le traitement alors qu'il n'a pas besoin de recevoir le traitement. Pire, qu'un prisonnier soit déclaré non tuberculeux alors qu'il est tuberculeux. Et à ce moment-là, la personne ne recevra pas le traitement alors qu'il est contagieux.
Ça veut dire que pour améliorer un petit peu leurs conditions de détention, il y a certains détenus qui sont prêts à prendre le risque et à se faire passer pour tuberculeux pour venir ici dans une colonie de tuberculeux, même s'ils n'ont pas la tuberculose au départ.
Oui. C'est relativement vicieux, mais pour que les gens puissent supporter le traitement, on aurait plutôt tendance, comme c'est des malades, à améliorer la condition de vie, ce qui naturellement crée des différences entre la colonie ici et d'autres colonies qui n'ont pas ce support. Et évidemment, ils essayeront au maximum de vouloir venir ici. Tout simplement en sachant tel prisonnier est positif, un autre prisonnier va lui demander s'il peut pas recevoir un de ses crachats. Et puis lorsqu'il va venir ici pour la collection des crachats, à ce moment-là, il va cracher le crachat de la personne qui est positive. À ce niveau-là, c'est relativement difficile de pouvoir détecter.
Tout ceci en dit long sur les conditions de vie dans les prisons kirghizes. Autre obstacle au travail des équipes médicales, le système de caste qui régit la vie carcérale. Alexandre Lesage.
C'est le système interne de la prison des prisonniers. C'est un système qui fonctionne par caste. On peut être pour, on peut être contre. C'est la réalité, ça fonctionne comme ça. Et on doit faire avec. Et s'assurer que tous les patients de n'importe quelle caste puissent avoir accès au traitement. Donc toutes les à peu près 4 castes. Et les deux dernières castes vivent ensemble, complètement isolées des autres. La plus basse, c'est les intouchables. Et la deuxième, c'est appeler les collaborateurs, ceux qui travaillent avec l'administration ou qui ont déjà travaillé avec l'administration. Les basses castes, donc pour considérer comme les intouchables, il est impossible d'être touché par un d'eux, impossible de boire dans le même verre, impossible de vivre dans la même pièce. Donc pour cette raison, il y a des facilités qui sont faites. Hein. Par exemple, pour les low castes, il serait impensable qu'ils prennent le traitement en même temps que les autres castes. Donc pour eux, le traitement est délivré de 8h à 8h30. Et à 8h30, le traitement est fini et les autres castes peuvent venir.
Enfin, il reste une dernière difficulté, une limite inhérente au milieu carcéral. Les détenus sont appelés à sortir un jour ou l'autre des colonies. Et quand cela a lieu avant la fin du traitement, les équipes médicales ont du mal à assurer le suivi du traitement dans le secteur civil. Les prisonniers, populations fragiles, n'ont souvent pas le réflexe de continuer la prise en charge à l'hôpital. Tous ces éléments contribuent au développement de tuberculose résistante au traitement. Cela pose un véritable problème de santé publique et inquiète quelqu'un comme Dominique Lafontaine, chef de la mission MSF au Kirghizistan.
Le traitement de la tuberculose est un traitement relativement lourd, nécessitant l'utilisation de plusieurs médicaments à la fois. La chute de l'Union soviétique a fait que l'approvisionnement en médicaments a été très aléatoire. Parfois, certains médicaments étant absents, les patients ont reçu un seul médicament. Ce genre de situation, évidemment, a provoqué l'apparition de résistance très rapide de ces médicaments, parce qu'ils n'étaient plus protégés par d'autres médicaments. Une des caractéristiques de toute la tuberculose dans le milieu ex-soviétique est que la proportion de résistance est extrêmement élevée. Ici, en ex-Union soviétique, les patients ont toujours eu accès aussi à ces médicaments sur le marché et avaient les ressources pour les acheter. Et donc, les traitements ont été également aléatoires du fait que la population en général a eu accès à ces médicaments. C'est un problème, évidemment, qui inquiète particulièrement l'Europe occidentale, qui est relativement proche de tous les pays qui ont ce problème à la fois d'incidence élevée de la tuberculose, mais également une incidence élevée de tuberculose résistante, avec un mouvement migratoire de plus en plus important entre ex-pays de l'Est et l'Europe occidentale. Ce problème de mouvement migratoire, évidemment, amplifie le risque de propagation de la tuberculose résistante dans l'ensemble du monde. Le problème va s'amplifier probablement dans le futur, mais n'est pas encore à un niveau critique pour les pays occidentaux. Le problème actuellement qui est peut-être plus inquiétant, c'est que ces formes de tuberculose résistante deviennent de moins en moins faciles à traiter. On arrive à un stade où ces formes qu'on dit multirésistantes deviennent ce qu'on appelle des formes extrêmement résistantes, qui ont un taux de mortalité énorme et qui sont quasiment intraitables. Et ça commence à inquiéter de plus en plus la communauté internationale parce qu'évidemment, si ces formes-là se disséminent, on n'a actuellement aucun traitement disponible. Ce qui montre l'importance également de continuer de recommencer la recherche à la fois de médicaments ou de vaccins contre la tuberculose. Disons, on s'est un petit peu reposé sur nos lauriers. On a laissé un petit peu les choses continuer sans vraiment faire attention à l'évolution de la tuberculose dans certaines parties du monde. Quand on sait que le vaccin de la tuberculose, je crois, date des années 20 et que depuis, il n'y a rien qui a été vraiment produit de nouveau, on peut se sentir peut-être un peu coupable de la situation actuelle.
En ce moment, seuls les traitements de base, qu'on appelle de première ligne, sont disponibles dans le secteur carcéral kirghize. Quand ces traitements ne sont pas efficaces, c'est-à-dire en cas de tuberculose résistante, il faut utiliser des traitements de deuxième ligne, appelés DOTS+, mais ces médicaments ne sont pas encore disponibles dans les prisons kirghizes. Ils ne le seront qu'à partir du mois de juillet 2007. Et en mettant en œuvre ce traitement DOTS+ dans ces prisons, finalement, le Kirghizistan fait figure de pionnier dans la région d'Asie centrale. Mais le pays est dans l'incapacité de faire face seul à ses coûts de traitement. Le traitement coûte 7 000 $ par patient. L'approvisionnement en médicaments sera donc assuré par les organisations internationales et par le Fonds mondial. Mais il reste que certaines tuberculoses extrêmement résistantes aux médicaments sont en fait impossibles à traiter. Merci à Camille Magnard et Mathilde Goanek pour ce reportage au Kirghizistan, une émission réalisée par Françoise André et Fouzi Slimani. Au revoir à tous et à demain.